Vous écoutez France Culture.
C'est l'heure du journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Recep Tayyip Erdogan renforce son pouvoir en Turquie, réélu avec plus de 52% des suffrages dès le premier tour. Il va disposer de prérogatives renforcées. Correspondance de Nathalie Charbonnier, analyse dans cette édition d'Éric Biegala. Un nouveau navire au large de Malte, 239 migrants à bord, sans pouvoir accéder au port italien ou maltais, précision de Clarence Rodriguez. Pendant ce temps, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, est en Libye pour y rencontrer les autorités de ce pays. Explication de Mathilde Imberti. Sur le plan européen, toujours des dissensions. Emmanuel Macron et Angela Merkel appelaient hier à des accords, à plusieurs, sur ces défis migratoires, sans tellement plus de précision. En tout cas, les quatre pays du groupe dit de Visegrad, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, avaient boycotté cette réunion qu'ils qualifiaient d'inacceptable. Commentaire de Marie-Pierre Véraud à quelques jours maintenant d'un sommet européen consacré à la question. Le président nationaliste de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, refuse de rencontrer, comme prévu, le Premier ministre le 2 juillet prochain. Il affirme que le gouvernement méprise effectivement les élus corses, analyse avec Ludovic Piétenu. Et puis le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui salue l'interpellation par la DGSI d'une dizaine de personnes hier qui sont liées, selon lui, à l'ultra-droite et soupçonnées de préparer des passages à l'acte. Le groupe avait commencé à faire des repérages, notamment autour de plusieurs mosquées. Enquête avec Florence Turme. Le passage ce dimanche de la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes. On en parle avec l'invité de la séquence interview, Claude Gault, qui est accidentologue et président de l'association pour l'interdiction des véhicules inutilement rapides. Dans la dernière partie de la grande table, Olivier Jasbert.
Vivre sans Dieu, est-ce encore possible alors que dans notre époque, sont témoignés d'un retour du religieux, y compris d'ailleurs dans nos sociétés. On en parlera avec nos deux invités, le philosophe Abdennour Bidar, en discussion avec le directeur de la rédaction du nouveau magazine littéraire, Raphaël Glucksmann. Il sera avec nous à partir de 12h55, Antoine.
Recep Tayyip Erdogan, donc, qui renforce son pouvoir en Turquie avec cette victoire à l'élection présidentielle, victoire nette, ainsi que la victoire de son parti, d'ailleurs l'AKP aux législatives. Erdogan crédité de plus de 52% dès le premier tour. Son concurrent le plus sérieux, qui est un social-démocrate, a reconnu tout à l'heure sa défaite. Il obtient un peu plus de 30%. Il exhorte le président réélu à être tout de même le président de 81 millions de Turcs. Nathanaël Charbonnier, bonjour, vous êtes sur place à Istanbul. Antoine. Victoire d'Erdogan, assez large, pas vraiment contestée donc depuis ce matin. Comment vous l'expliquez ?
Écoutez, il y a plusieurs éléments de réponse. Ce qui est frappant, c'est cette reconnaissance des Turcs pour le défenseur des musulmans qu'il se veut être. Il prend notre défense face au reste du monde, face aux Européens, aux Anglais, aux Français, entend-on souvent. Erdogan a cette capacité de défendre et de rassurer, alors que les problèmes sont nombreux, notamment économiques. Il est là, un peu comme un père de famille contre lequel on proteste, bien sûr, quelquefois, mais qu'on respecte et qu'on écoute. Et puis, c'est vrai, c'est un renard rusé. Il a anticipé les élections pour que l'opposition soit prise de court, et cela a fonctionné. Il a mené quelques attaques en Irak, en Syrie, au bon moment, ce qui a flatté la fibre patriotique des Turcs. Enfin, il faut le dire, il avance avec un char d'assaut quand ses adversaires se battent avec des arcs et des flèches. 90% des médias sont dans sa poche, on l'a déjà dit, mais lorsque son adversaire rassemble 2 millions de personnes à Istanbul, aucune chaîne de télévision ne retransmet son discours. Ça montre l'ampleur du déséquilibre.
Et l'opposition qui a quand même mis du temps donc à reconnaître sa défaite ce matin.
Ah bah l'opposition, elle est sonnée comme un uppercut. Elle ne pensait pas forcément gagner, mais elle pensait quand même aller au second tour. Alors certes, il y a eu des fraudes. En tout cas, elle a été relevée, notamment dans le sud-est du pays. Mais pas de quoi changer le résultat final de l'élection. Seule satisfaction pour l'opposition. Elle a trouvé quoi? Eh ben un chef peut-être. Ince, en moins de 2 mois s'est fait connaître, mais 2 mois c'était trop court pour devenir président. Il dispose de 5 ans maintenant pour se préparer.
Merci beaucoup Nathanaël Charbonnier. Donc vous étiez avec nous en direct d'Istanbul. Victoire très nette, il faut le souligner. Éric Biegala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Victoire nette et ce contexte institutionnel qui s'est modifié, qui renforce encore les pouvoirs du président.
Oui, cette double élection présidentielle et législative signe en effet l'entrée en vigueur des nouvelles institutions décidées par la réforme constitutionnelle de l'année dernière, adoptée elle par référendum. Une réforme qui fait passer la Turquie d'un régime parlementaire à un régime présidentiel, à la manière de la France ou des États-Unis. assuraient ses promoteurs, notamment au sein de l'AKP, le parti d'Erdogan. Mais en fait, c'est bien un régime hyper présidentiel qui s'annonce, celui d'un seul homme au pouvoir, à tous les pouvoirs. Le futur chef de l'exécutif, en l'occurrence Recep Tayyip Erdogan, n'aura en effet pratiquement pas de contre-pouvoir. La fonction de Premier ministre est abolie, c'est le président qui nommera désormais les ministres et les vice-présidents sans confirmation parlementaire. Le vote de confiance parlementaire qui d'ordinaire entérine la politique d'un exécutif est également aboli. Le Parlement pourra bien, théoriquement, démettre le chef de l'exécutif, une sorte de motion de censure si vous voulez, mais au terme d'une procédure particulièrement longue, compliquée, et grâce à une majorité des deux tiers, très difficile, voire impossible à trouver, le président du pays préside aussi le parti AKP qui aujourd'hui détient près de la moitié des sièges à la Chambre. La responsabilité enfin de la construction du budget, jusque-là dévolue au Parlement, devient dorénavant la prérogative du seul président. Celui-ci nommera aussi, toujours sans sanction parlementaire, les principaux hauts fonctionnaires du pays et la majorité des juges de la Cour suprême. Commandant en chef des forces armées, Erdogan pourra de son propre chef entrer en guerre et apparemment ne s'en privera pas. Il annonçait dès hier soir lors de son discours de victoire la poursuite d'opérations militaires turques en Syrie avec pour objectif d'y gagner du terrain pour y renvoyer, a-t-il dit, la plupart des quelques 3,5 millions de réfugiés aujourd'hui présents sur le sol turc.
Eric Bekala, merci à signaler la réaction du président russe Vladimir Poutine qui félicite Erdogan pour sa réélection qui témoigne selon lui de la grande autorité politique du chef de l'État turc. Il y a un nouveau navire au large de Malte avec 239 migrants à son bord et qui met une nouvelle fois donc en lumière les divergences des Européens sur la question des migrants. Un navire humanitaire qui bat pavillon néerlandais, le Lifeline, qui se trouve donc en Méditerranée sans pouvoir accéder ni aux ports italiens ni aux ports maltais. Clarence Rodriguez, bonjour.
Bonjour.
Où en est-on ce matin? Pas très loin.
Bah écoutez, en attendant qu'une solution diplomatique se présente, bien le navire se trouve toujours en eau de trouble, j'ai envie de dire, au large des côtes maltaises. L'ONG allemande Mission Lifeline, qui a affrété le navire refoulé par les autorités italiennes, vous l'avez dit, a répondu de façon cinglante aux propos du ministre italien de l'Intérieur. Cher Matteo Salvini, nous n'avons pas de viande à bord, seulement des humains. Alors rappelons que Matteo Salvini avait parlé sur Facebook de la cargaison de chair humaine que transportait le navire. Rome accuse Mission Lifeline d'avoir agi en contravention du droit international en prenant à son bord les migrants alors que les gardes-côtes libyens étaient en train d'intervenir. L'organisation a du reste précisé qu'elle avait reçu de Malte de la nourriture et de l'eau potable ainsi que des médicaments et des couvertures de deux autres navires allemands d'aide, le Sea Eye et le Sea Watch. Mais le plus incompréhensible pour Axel Steyer, porte-parole de l'ONG qui a affrété le bateau, reste l'incapacité des chefs d'État européens à se mettre d'accord. Le représentant de l'association a précisé ce matin que faute de solution, il demanderait à la France d'accueillir les migrants. En attendant une réponse de l'État français, le maire de Barcelone a réagi sur Twitter. Il tend une main aux migrants en proposant le port de sa ville pour accueillir le bateau. On le voit bien Antoine, le Lifeline est en passe de devenir un nouveau symbole du bras de fer entre les pays européens sur la prise en charge des migrants secourus en Méditerranée.
Voilà, et on reparle effectivement de cette question puisque le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, est en Libye. Il est parti ce matin, il doit y rencontrer les autorités du pays. Entretien publié ce matin dans le quotidien La Repubblica du vice-premier ministre libyen, Ahmed Mitig, selon qui, eh bien, la collaboration entre l'Italie et la Libye est décisive. Il affirme même que l'arrivée de migrants est aussi un problème important pour son pays, la Libye. Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour à tous.
Contrairement à ce qu'on pouvait donc a priori imaginer, Salvini va peut-être trouver une forme de soutien de la part des autorités libyennes.
Oui, peut-être Antoine. En tout cas, la discussion est en cours avec le ministre de l'Intérieur libyen. Matteo Salvini s'est envolé ce matin à 7h pour la Libye. C'est le premier déplacement d'un membre du nouveau gouvernement italien à Tripoli. L'objectif de Matteo Salvini, consolider la collaboration sur tous les fronts, à commencer par l'urgence migratoire, car la solution à long terme passe par la Libye, l'Italie et l'Europe en sont conscientes. Dans le chaos libyen, le précédent gouvernement italien avait conclu des accords controversé et obtenu une chute de 80% des départs des côtes libyennes. Rome a financé et formé des gardes-côtes libyens pour intervenir en mer. Matteo Salvini veut approfondir cette logique, confier toujours plus de missions aux Libyens afin d'exclure du jeu les navires des ONG et le plus possible les navires marchands aux militaires. Une annonce nous parvient à l'instant de Tripoli. Matteo Salvini s'est prononcé contre l'installation de hotspots en Italie pour identifier les migrants. Il les verrait davantage ces centres à la frontière sud de la Libye. Rappelons que l'installation de ces centres d'identification en Italie et en Espagne est une des propositions faites par la France lors du sommet d'hier à Bruxelles.
Mathilde Imberti, merci beaucoup. On en reparle de ce sommet. Emmanuel Macron, Angela Merkel qui appellent à des accords à plusieurs sur ces défis migratoires pour contourner les divergences actuelles, notamment avec ces quatre pays du groupe de Visegrad, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, qui n'ont pas participé à cette réunion parce qu'ils la jugeaient inacceptable. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Antoine.
Il y a un sommet européen sur la question jeudi et vendredi cette semaine, donc à Bruxelles. Pas d'accord, mais quand même, finalement, il y a une ligne de front, si on peut dire, une volonté de la plupart des pays européens, si ce n'est tous, de contrôler les frontières de manière plus hermétique.
Oui, loin de l'impression de cacophonie qui domine sur l'accueil ou l'asile, la fermeture des frontières, elle, fait consensus, et ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Dans la vieille Europe, comme dans les pays du groupe de Visegrad, ces mauvais élèves de l'accueil que l'on tense à Bruxelles ou à Paris, on partage la même vision. Il faut empêcher les migrants d'aborder les rivages européens. La logique est à l'œuvre depuis plusieurs années, mais elle connaît depuis 2015 une accélération. Il y a eu les accords avec les pays d'origine, les camps dans des pays de transit comme le Niger, la fermeture de la route des Balkans par un accord avec la Turquie, la coopération de plus en plus étroite avec la Libye et qui se poursuit, donc on vient de l'entendre, la fin de l'opération italienne de sauvetage en mer Mare Nostrum, remplacée par des opérations militaires qui ont pour objectif premier de sécuriser les frontières et non de secourir. Frontex, le corps de garde frontières européen, ne cesse de monter en puissance. Il devrait se transformer en police des frontières et atteindre les 10 000 hommes dans le prochain exercice. Le consensus est donc bien là, renforcer les frontières extérieures pour, dit-on, éviter l'effondrement de l'espace de libre circulation Schengen, même si cela n'a pas empêché le rétablissement de frontières intérieures, comme par exemple entre la France et l'Italie. Renforcer ces frontières pour aussi, ajoute-t-on, éviter l'effondrement du système d'asile qui serait mis en péril par des arrivées massives de migrants n'ayant pas besoin de protection. Renforcer ces frontières enfin pour empêcher ces migrants d'entreprendre les voyages de la mort. Bref, pour les sauver en quelque sorte. Aucun problème là-dessus, d'accord à 28. C'est donc plus délicat pour l'accueil des demandeurs d'asile déjà arrivés et pour les prochains à venir. On devrait procéder par accords bilatéraux ou trilatéraux pour se répartir les demandeurs d'asile ou les réfugiés. Le ping-pong humanitaire risque donc de se poursuivre.
Merci Marie-Pierre Véraud. L'actualité française avec le président nationaliste de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, qui annonce refuser de rencontrer le Premier ministre. C'était une rencontre qui était prévue après un cycle de discussions le 2 juillet prochain. Il s'agissait donc de conclure ces réunions sur l'avenir de l'île. Et Monsieur Talamoni dénonçait ce matin sur France Info le mépris du gouvernement. On l'écoute.
Il y a eu un grand nombre de réunions qui n'ont servi strictement à rien. Nous nous sommes rendus compte dès les premières de ces réunions que nous ne pourrions pas avancer. Manifestement, le gouvernement avait déjà les conclusions de ce cycle de concertation avant même de le commencer. Il est tout à fait évident que dans l'esprit du gouvernement, il s'agit simplement de réunir les élus de la Corse, de faire une photo pour donner l'impression à l'opinion qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un dialogue, mais c'est purement fictif. En réalité, comme je vous le disais, les conclusions étaient manifestement prises avant même le début des discussions.
La députée La République En Marche, Aurore Berger, juge étonnant, dommageable que M. Talamoni refuse ainsi de rencontrer le Premier ministre Édouard Philippe. Elle espère que la voie du dialogue va l'emporter finalement. Alors est-ce que le dialogue peut reprendre? C'est quand même toute la question qui se pose, Ludovic Piatelu, quand on voit la tonalité utilisée.
Bon, le dialogue existe, Antoine. L'État français est le premier partenaire de la Corse, un partenaire indispensable ne serait-ce que du point de vue financier. Et puis les deux parties disposent de multiples canaux pour discuter. C'est ce que propose Paris depuis le début qui ne convient pas, depuis le discours d'Emmanuel Macron début février, d'où cette lettre pour faire monter la pression. Il y a dans ce courrier du président de l'Assemblée de Corse résumé le défi culturel qui est posé aux nationalistes. Détenir la majorité absolue depuis le mois de décembre les oblige. Il leur faut discuter avec l'État et en même temps satisfaire leur base contestataire. Sauf que quand on est aux manettes, on ne peut plus rester autant dans la contestation. C'est ça le défi culturel. Et l'État français, Matignon, Édouard Philippe, ses proches le savent bien. En restant ferme, ils vont encourager les surenchères parmi les nationalistes corses. Ils peuvent mettre en difficulté même Gilles Simeoni, le président de l'exécutif, dans un pas de deux parfois compliqué avec Jean-Guy Talamoni. C'est du diviser pour mieux régner, en sachant que c'est un jeu risqué. Sur l'île, les tentations violentes peuvent ressurgir. Il faut qu'il y ait un lien, une logique entre la victoire électorale de la fin de l'année dernière et puis maintenant des conséquences concrètes, des gains, des réalisations pour le peuple corse, au risque sinon de faire monter les radicalités. En parlant dans sa mission massive d'absence de considération pour la politique que le Premier ministre met en œuvre. Jean-Guy Talamoni, avec ses mots forts, va chercher le soutien de ses militants et de ses sympathisants. Il leur redonne du baume au cœur et ça fonctionne. Antoine, il n'y a qu'à aller voir les réactions à ce courrier de 3 pages sur les réseaux sociaux depuis hier matin. La compétition interne est bien une clé de compréhension dans ce dossier. D'ailleurs, Gilles Simeoni, le chef de l'exécutif corse, refuse pour l'instant de dire si oui ou non il se rendra, lui, à cette réunion parisienne du 2 juillet.
Ludovic Piétenu, merci. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb salue l'interpellation. C'était samedi soir par la DGSI de 10 individus qui sont liés, dit-il, à l'extrême droite, à l'ultra-droite, pardon, soupçonnés de préparer un passage à l'acte. En fait, 10 personnes entre 32 et 69 ans interpellées dans plusieurs régions, Charente-Maritime à Paris, mais encore en Corse du Sud ou en Haute-Vienne, ainsi que dans le Cher. Ils étaient surveillés depuis plusieurs mois, Florence Turme.
Les gardes à vue qui peuvent se poursuivre jusqu'à mercredi permettront peut-être d'en apprendre davantage sur le profil, les intentions et les capacités d'action réelles des personnes interpellées. À ce stade, les milieux proches de l'enquête évoquent un projet de passage à l'acte violent, aux contours mal définis, ciblant des personnes de confession musulmane. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, reçoit d'ailleurs les représentants du CFCM, le Conseil français du culte musulman, qui a manifesté à la fois son inquiétude et sa consternation. Pour le moment donc, difficile de cerner ce groupe lui-même, baptisé AFO, Action des Forces Opérationnelles. Il serait dirigé par un ancien policier à la retraite, âgé de 65 ans et vivant en Charente-Maritime. Les 10 personnes interpellées sont pour la plupart inconnues des services de police, mais elles étaient sous surveillance dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 14 juin dernier par un juge d'instruction parisien pour association de malfaiteurs terroristes. En octobre, la police avait démantelé un autre groupuscule d'ultra-droite. On peut noter au passage la terminologie qui a remplacé extrême droite, un groupe fédéré autour d'un ancien militant du mouvement royaliste Action française et qui avait envisagé notamment de s'en prendre à Jean-Luc Mélenchon. Pour l'heure, les dossiers judiciaires impliquant l'ultra-droite restent assez rares au sein du pôle antiterroriste accaparé par les affaires djihadistes, mais l'évocation de la menace, elle apparaît de plus en plus présente dans les discours politiques et policiers. En 2016, Patrick Calvar, alors patron du renseignement intérieur, s'inquiétait d'une possible confrontation entre l'ultra-droite et le monde musulman. L'extrême droite, dont la radicalité n'a jamais vraiment disparu de l'espace public en France. On se souvient aussi que c'était la première piste privilégiée par les enquêteurs lors des tout premiers crimes commis par Mohamed Merah en 2012.
Avant de parler de l'entrée en vigueur de la limitation de vitesse, ce sera ce dimanche à 80 km/h sur les routes de France. On fait le bilan de cette réforme de 12 élèves par classe en CP cette année dans les zones qui étaient jugées prioritaires. Il y a une enquête du SNUPP-FSU, qui est le premier syndicat chez les enseignants du primaire, qui est paru ce matin, qui donne des éléments de réponse à Kim Kasmi. Et vous assistiez donc à la conférence de presse organisée à Paris.
Et oui, Antoine, ici en direct du siège du SNUPP. Alors si les syndicats du SNUPP saluent cette initiative du dédoublement, ils dénoncent en revanche le manque de moyens. Car pour mettre en place le dédoublement, il a fallu supprimer de nombreux postes de RAZ. Ce sont ces enseignants spécialisés pour les élèves en grande difficulté. Il a fallu également supprimer des postes en maternelle, mais aussi fermer des CDI dans 27% des cas pour avoir des classes disponibles. Sans compter les salles des Ulis, destinées aux élèves handicapés, qu'il a fallu mettre ailleurs pour avoir des classes disponibles. Pour Françoise Popineau, co-secrétaire général du SNUPP, il faut donc plus de moyens, d'autant que la France investit 15% de moins dans le primaire par rapport aux autres pays de l'OCDE, c'est même 30% par rapport aux pays aussi riches qu'elle. Françoise Popineau.
Quand on dit qu'on donne plus à l'éducation prioritaire, c'est infime. On donne déjà pas assez à l'éducation ordinaire. Donc il faut donner beaucoup plus à l'éducation prioritaire, bien évidemment. Mais nous, on a calculé que si on abaissait les effectifs dans toutes les classes de l'éducation prioritaire à 20 élèves, donc tout le monde profiterait de l'abaissement des effectifs, et ça aurait un coût au maximum de 2000 postes supplémentaires. Mais tout le monde bénéficierait de cet abaissement des effectifs.
Il y a donc urgence car la mesure s'appliquera à la rentrée au CE1 de REP+. Rappelons Antoine qu'il y a 1 million d'élèves scolarisés en zone d'éducation prioritaire dans le primaire.
À Kim Kasmi, merci beaucoup au siège du SNUPP, donc dans le 15e arrondissement de Paris. L'invité de la séquence interview à 1h10, c'est Claude Gault, médecin, accidentologue, partisan de la limitation de la vitesse sur les routes. Bonjour monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes en ligne avec
nous? Bonjour, je vous entends très bien.
Alors c'est ce dimanche donc qu'entre en vigueur cette fameuse limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes où elle était jusque-là limitée à 90. Ça fait 10 km/h de moins. Stéphane Robert, je vous salue également. Bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Alors c'est un ralentissement, avant d'entendre notre invité, il faut quand même le souligner, c'est un ralentissement sur les routes qui pourrait aussi être ressenti sur la popularité du gouvernement et de l'exécutif.
Oui, parce que cette mesure n'est pas comprise par une part importante de la population, notamment par ces Français qui vivent en milieu rural et qui n'ont bien souvent pas d'autres moyens de transport que leur automobile. Beaucoup de ces Français dits de la campagne estiment que l'abaissement de la vitesse à 80 à l'heure émane de technocrates, de citadins qui ne comprennent pas les réalités du terrain. Mais ça va même au-delà, puisqu'une enquête au début du mois de mai mesurait que 74% des Français sont opposés à cette mesure, 3 sur 4. Face à cette impopularité, les associations de défense des automobilistes ainsi que des responsables politiques, en particulier à droite, ont multiplié les recours ces derniers jours. Un certain nombre de départements comme la Creuse ont annoncé qu'ils ne changeront pas les panneaux de signalisation. D'ailleurs, au sein même du gouvernement, on a conscience du problème. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, à l'occasion d'un débat auquel il participait le mois dernier, avait demandé un joker sur cette question des 80 à l'heure. Même Emmanuel Macron a perçu combien cette mesure était impopulaire, puisque interrogé par Jean-Pierre Pernaut en avril dernier, il avait dit « si dans 2 ans on s'aperçoit que ça ne marche pas, on ne continuera pas ». Le chef de l'État qui avait ainsi donné l'impression de vouloir atténuer un peu et à l'avance les conséquences politiques de cette mesure qui n'était pas dans son programme de candidat.
Alors Claude Gaud, question d'abord politique, même si vous êtes plutôt un technicien de la chose, est-ce qu'il ne faut pas tenir compte de l'avis des populations, notamment dans les campagnes, concernant cette vitesse sur les routes ?
Il faut bien voir l'étendue de la désinformation qui a été développée et qui a finalement provoqué cette réaction d'une partie majoritaire actuellement de la population.
En quoi consiste-t-elle ?
On a connu ça. Alors, on a connu ces désinformations et ces oppositions dans toutes les grandes réformes de sécurité routière, et je les ai toutes connues, depuis celle de 72, ensuite le permis à points, la réforme de Chirac de 2002, et ensuite, quand les résultats sont apparus, eh bien, tout s'est calmé, et il en sera à l'identique.
En quoi consiste la désinformation, monsieur Gaud ? En quoi consiste
la première désinformation est celle qui vient d'être citée. C'est un problème où, en gros, des gens qui sont les centraux dans les grandes agglomérations imposent quelque chose qui va être une gêne pour les gens qui sont dans des zones rurales. C'est exactement l'inverse de la réalité. Il suffit d'aller à Paris dans la journée, le matin, le soir, c'est encore pire, pour voir que le temps perdu est dans les grandes agglomérations et que les départements qui ont des faibles densités de population n'ont pas ces problèmes. Ils ne perdent pas de temps.
C'est sûr qu'à Paris, 80 km/h, on en est assez loin. Mais alors, où est-ce qu'il faudrait fixer le seuil ?
Donc, vous voyez bien que sur ce point fondamental, qui est le rôle de la vitesse dans la mortalité routière, qui est un fait établi depuis des décennies, on entend des gens dire « la vitesse, c'est pas dangereux ». On entend des responsables départementaux dire « ah, on pourrait maintenir certaines voies à 90 alors que ce sont les voies les meilleures où il y a le plus de trafic et où il y a le plus de morts. Donc, sur chaque argument, on peut exprimer, non pas une opinion, mais des preuves. Et actuellement, il y a une difficulté considérable à le faire. C'est pour ça qu'avec d'autres chercheurs, on a produit la semaine dernière, c'est paru dans le JDD, des cartes de chaque département étudiant la mortalité des 10 dernières années et montrant qu'un petit nombre de voies, environ 12 à 15%, font 50% des tués. Et face à des faits aussi évidents, qui sont des preuves, eh bien, on entend des discours qui sont des discours totalement irrationnels. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler à France Culture, parce que dans la culture, il y a la connaissance, les sciences, la recherche et donc la crédibilité.
Voilà. Et on prend son temps aussi sur France Culture.
La crédibilité a disparu sous ce flot de mensonges et de manipulation des faits.
Une question de Stéphane Robert.
Où est-ce que, selon vous, Monsieur Gaud, se situe la limite entre liberté et répression ? Est-ce que vous estimez qu'une large majorité de la population a une tendance au laxisme et au laisser-aller qu'il faut en permanence et de plus en plus réprimer ?
Sûrement pas. Il s'agit de dire qu'une fonction de l'État, c'est la sécurité. On répète tout le temps que ça fait partie des fonctions régaliennes de l'État d'assurer la sécurité. Et quand on se dit qu'il y a sur les routes plus de 3000 tués. On est parti, quand j'ai commencé moi à travailler, de 18 000 tués. On a divisé par un facteur très important la mortalité sur les routes. On peut encore gagner. Et quand on voit des sondages qui nous disent que l'inquiétude des Français, l'inquiétude majoritaire, ce sont les attentats islamistes, on peut avoir une vision plus rationnelle et dire que sur les 30 dernières années, il y a plus de morts en une journée sur les routes que dans les attentats d'une année. Et j'ai travaillé avec les journalistes de Charlie Hebdo, j'ai souffert, comme tous les gens qui ont travaillé avec eux, de ce qui s'est passé, mais il faut essayer de parler de temps en temps de la réalité et non pas des fantasmes, mais de tout ce qu'on peut développer.
C'est aussi que
la réalité, c'est qu'il ne s'agit pas d'un problème de liberté.
Oui, mais moins il y a de vitesse, moins il y a d'accidents. Plus la vitesse est basse, moins il y a d'accidents. Donc, il faut fixer un seuil tout de même.
Ben, c'est tout quoi, à fait. Seuil c'est un compromis politique.
Alors, c'est quel seuil, selon vous? Est-ce que 80, ça vous convient, par exemple? Ou est-ce que vous allez nous dire, il y a encore des morts sur les routes à 80, il faut baisser à nouveau?
Je sais que ce n'est pas le 80 qui sera remis en cause. Il ne faut pas oublier que la mise à 90...
Il me reste quelques secondes, excusez-moi.
Oui, mais dites, on parle d'un sujet qui concerne 400 morts et on va en parler en 4 minutes. Moi, je suis prêt, avec France Culture, d'avoir une émission approfondie d'une heure où je pourrais vous exprimer tout ce que j'ai appris depuis 40 ans.
Voilà, l'appel est lancé. Claude Gault, merci. Excusez-moi, il faut s'arrêter là, pas aller trop sur les routes, l'autoroute qui commence jusqu'à maintenant 13h30, la grande table de la dernière partie. Merci Claude Gault d'avoir accepté notre invitation. Très rapidement, là, plus de 90, la journée de lundi s'annonce ensoleillée sur la majeure partie du pays avec des maximales qui seront de 27 à 33 degrés sur le sud, de 20 à 28 sur la moitié nord. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec...
Je ne sais pas.
Aurélie Kiffer.
Aurélie Kiffer.